Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission culturelle de Radio Prague, une émission spéciale aujourd'hui à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je vous propose de réentendre quelques extraits des meilleurs moments de nos émissions de cette année et dans la première partie de ce best-of, on parlera essentiellement photographie. Le 16 janvier 2009, 40 ans se sont écoulés depuis l'immolation de l'étudiant Jan Palach pour protester contre l'occupation soviétique. À cette occasion, la photographe tchèque Dana Kendrova a monté une exposition qui présentait des photos jusqu'alors inédites. L'occasion de convoquer ses souvenirs de l'époque.
Je me souviens des événements qui se sont passés après, mais le jour le 16, non, mais après vraiment c'était très émotionnel, on était tout le monde dans la rue. Moi-même, j'avais 14 ans et moi je faisais garde à côté de du cercueil de Jan Palach à Karolinum. Alors j'étais scout, alors on était très fiers d'être là.
Parlez-moi un petit peu donc de cette exposition, c'était un projet qui vous tenait à cœur de faire une exposition consacrée exclusivement à Jan Palach dans un cycle finalement que vous avez monté sur ces événements historiques, disons le 68 notamment. Pourquoi c'était important pour vous de monter une exposition à part?
Moi, j'ai collectionné les photos pour l'expo qui se déroulait l'année passée à l'occasion du 40e anniversaire de l'occupation. Et j'ai voulu mettre dans ce projet aussi les photos de Jan Palach comme épilogue. J'ai trouvé beaucoup de photos et je me disais c'est dommage de le faire ensemble. Et je me suis décidé de faire une exposition à part et un livre.
Le sous-titre, disons, de cette exposition, c'est du 16 au 25 janvier. Pourquoi ces dates?
Parce que le 16, c'était le jour quand Jan Palach s'est brûlé et le 25, c'était les funérailles qui se sont passées dans Prague. Il y avait encore une grande manifestation le 20. Alors c'était vraiment une manifestation énorme dans Prague qui commençait à Place Venceslas et ça continuait à travers la vieille ville devant, et la fin c'était devant le bâtiment de la faculté des lettres. C'était le soir déjà. C'était vraiment très impressionnant.
Quel est le message du geste de Jan Palach aujourd'hui et quel est votre sentiment par rapport à ce geste?
Le message pour moi, c'est que vraiment, il ne faut pas se brûler, mais il faut se battre contre la réalité, contre les moments qui sont quelquefois difficiles. Dans sa maison, il faut faire quelque chose. Alors, dans son domaine, si vous avez la possibilité de faire quelque chose, même si ce n'est pas trop, mais il faut faire quelque chose contre ces injustices.
On reste dans le domaine de la photographie avec une belle rencontre cette année, celle du photographe František Zvardoň. D'origine tchèque, il est installé en Alsace depuis les années 80, mais c'est un véritable globe-trotteur qui sillonne la planète avec son appareil photo. Il nous rappelle comment il est arrivé en France.
J'ai vécu 35 ans en Moravie, déjà les paysages qui sont un peu vallonnés, où il y a des vignobles, donc ça ressemble pas mal à l'Alsace. Mais c'est aussi, je pense, la mentalité des gens qui sont similaires. Je retrouve quelques éléments de la vie qui ressemblent à, pas tellement peut-être à Prague, mais chez nous en Moravie. Moi, je suis venu en Alsace en 85. je trouvais cette terre absolument accueillante pour moi. Malgré que je travaillais un peu dans le monde, je reste, probablement je resterai toujours.
Vous parliez des paysages similaires de la Moravie et de l'Alsace. Alors justement, vous avez énormément photographié l'Alsace, les paysages de l'Alsace, justement de très beaux panoramas. Comment est-ce que vous envisagez justement la photographie de ces paysages-là en particulier? Parce que vous avez énormément voyagé ailleurs dans le monde, dans des paysages, j'allais dire, plus exotiques. Est-ce que vous le regardez avec le regard de quelqu'un qui est originaire de Moravie?
Je pense que c'était un avantage que je viens d'ailleurs. Tout d'abord, l'école à Brno que j'avais photographique, l'école classique, donc que je suis arrivé en 85, j'ai travaillé avec grand format, les photographes déjà à Strasbourg qui travaillaient tous en 24-36. Moi, j'ai ma première caméra, c'était l'Inhof 4-5 inches. Grand format et très statique, des photos étaient très très précises. Et du coup, je me suis un peu séparé par rapport à la technique et par rapport déjà au regard sur les paysages. Il n'y avait pas ce regard. Deuxième, quelqu'un qui n'a jamais vu l'Alsace, évidemment que je trouvais des endroits qui étaient un peu différents ou des angles différents. Je n'étais pas influencé par les images alsaciennes qui existaient déjà. Donc, c'était deuxième chose que si je présente des photos, c'était toujours un peu différent que l'Alsace. Au départ, il était choqué parce que, un exemple, jamais un photographe présentait la neige en Alsace. Ça ne se faisait pas. Un photographe ne photographiait pas la neige.
Je ne sais pas.
C'était comme ça. L'Alsace était présentée toujours le géranium, fenêtre, géranium, tout était en fleur et tout ça. Donc, et moi, j'ai commencé ces gros panoramas enneigés avec des maisons dans la crue, dans les vignobles et tout ça. C'était déjà un regard qui était très différent. Et donc, c'était assez surpris, d'autant plus que les techniques que j'ai utilisées des grands formats, c'est pas mal des éditeurs ou des galeristes et tout ça qui ont été étonnés à voir la photographie ancienne, très bonne qualité, très piquée, très détaillée. Donc, je me suis tout de suite remarqué par rapport aux autres photographes.
Finalement, on pourrait dire que vous montrez l'Alsace telle que les Alsaciens eux-mêmes ne la voient jamais ou finalement ne l'observent pas assez, en fait.
Exactement, c'est ça ce qu'on me dit souvent. On dit oui, j'ai jamais vu, pourtant je roule tous les jours au travail, j'ai jamais vu des paysages comme ça, pourtant je reconnais les paysages et ça les touche beaucoup. Et je pense que le livre, si elle marche tellement ou si elles sont appréciées, pour cet étonnement et parce que pour cette découverte déjà connue, ça les fait vibrer. Je pense que c'est pour ça qu'ils aiment bien les Alsaciens. Je découvre pour eux peut-être leur regard qui, ouais, quand vous regardez les paysages, c'est comme dans les films, mais moi je cherche un moment très précis. Dans la rapidité, vous remarquez cette lumière, vous remarquez ce paysage, mais vous ne le mémorisez pas. Donc je cherche ce moment et je mémorise. Donc du coup, les gens, ils se retrouvent et ils disent, voilà, c'est ça l'Alsace que j'ai, que je connais. Et enfin, je les vois tels quels. Un jour, je les ai vus en passant, etc.
À noter d'ailleurs que František Zvardoň vient de sortir un nouvel ouvrage intitulé « Les Alsaciens » paru aux éditions de la Nuée Bleue où pour une fois, à la manière des grands peintres de la Renaissance, il a réalisé une galerie de portraits d'Alsaciens en costume traditionnel. Et à croire que c'est une manie chez les Tchèques de partir sur les routes, autre globe-trotteur, mais caméra à l'épaule cette fois, le réalisateur de films documentaires Karel Prokop, auteur de plusieurs films sur l'histoire tchécoslovaque récente pour la chaîne de télévision Arte, il est aussi celui qui a révélé au grand public en France l'explorateur Théodore Monod. On l'écoute.
C'est un hasard de la vie parce qu'il se trouve que la femme que j'ai épousée, Anne Monod, était la cousine de Théodore Monod. Et j'ai donc découvert un personnage complètement incroyable, comme on le connaît maintenant. Je pensais qu'il y a eu déjà plein de films faits sur lui, parce qu'on a fait déjà beaucoup de films sur plein de gens. Et j'étais complètement sidéré d'apprendre que personne n'a jamais tourné un bout de pellicule sur lui. Et Théodore mon nom, à l'époque, avait ce projet de partir dans le désert à la recherche de la fameuse météorite de Shengeti, qui l'obstinait depuis une trentaine d'années, qu'il avait cherché dans ses jeunes années, qu'il voulait absolument retrouver, comme il disait lui-même, avant de quitter ce monde. Cette personnalité, plus cette histoire fabuleuse de la météorite disparue, entourée de légendes, plus ce vieux bonhomme qui doit partir tout seul avec 5 chamons et 3 bédouins dans le désert à l'époque où on ne se déplaçait déjà qu'en 4x4, ça m'a impressionné. Et donc je me suis dit, il faut faire un film là-dessus. Oh, petite anecdote quand même, ça paraît incroyable maintenant, mais je me suis fait jeter à peu près de toutes les chaînes de télévision.
Ce qui est quand même incroyable parce que aujourd'hui Théodore Monod est mondialement connu.
Mondialement peut-être pas, en France ou n'importe qui. Bon. Heureusement, il y avait quand même quelques personnes sensées et intelligentes, et parmi eux, je cite Pierre-André Bouton, qui était un producteur, un réalisateur qui dirigeait une magnifique série à l'époque qui s'appelait Océanique, qui passait sur France 3, qui a quand même saisi là l'intérêt de cette opération, qui d'ailleurs à l'époque était présentée et en toute bonne foi comme la dernière expédition de Théodore Monod, parce qu'il m'a dit lui-même, c'est la dernière fois que je pars dans le Sahara, je veux en finir avec cette histoire, et bon, après c'est fini. Et bon, Dieu sait que bon, après ça lui a ouvert plein de possibilités, tout le monde a voulu faire des films sur lui, donc il a fait encore je sais pas combien d'expéditions pendant une dizaine d'années dans le désert, mais à l'époque c'était pas le cas. Pierre-André Bouton a assez apprécié le résultat, et c'était en 1987 je crois. Peu de temps après, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, on veut faire quelque chose, France 3 veut faire quelque chose d'important sur l'histoire tchèque, ça va être l'anniversaire de coup de Prague 48, et puis de 68, et puis on est en 88, et j'ai pensé que tu serais bien placé pour faire quelque chose, un programme intéressant qui raconte un peu l'histoire tchèque, pour faire quelque chose, pour rappeler ces événements tristes. » Et je dis « Oh, pas question, n'importe comment, moi ça m'intéresse plus, moi je vais retourner dans le désert ou plonger, la Tchécoslovaquie ne m'en parle plus. » Et il a insisté, et puis bon, finalement, j'ai pas pu vraiment refuser. Et la question que je me posais, c'est comment faire pour ne pas faire simplement un film d'histoire comme on en voit tellement, où on colle dans un ordre plus ou moins chronologique des bouts d'actualité les uns derrière les autres, et puis on colle un commentaire dessus, et puis ça fait un film qui raconte une histoire, point final.
Et entre-temps, Karel Prokop est évidemment reparti sur les routes à la recherche d'autres endroits peu connus de la planète. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de cette émission Best of de la culture pour l'année 2009. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Entre-temps, vous pouvez évidemment consulter notre site internet www.radio.cz où vous retrouverez cette émission et bien sûr toutes les autres. Merci de votre fidélité, bonne fête à vous, à bientôt, ahoy.